Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52. Depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes. En l'occurrence, nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour tout le monde, et oui, on est de retour pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Margaïde et je suis en studio avec Elsa.
Coucou!
Et malheureusement, Anaïs ne peut pas être avec nous aujourd'hui, alors reviens-nous vite Anaïs! Aujourd'hui, on va vous parler d'éducation. Vaste sujet, n'est-ce pas Elsa?
Ça c'est clair.
Quitte à rappeler une banalité, les enfants sont les adultes de demain. Voilà, je fais une thèse de philo. Alors si nous voulons enfin une société débarrassée du sexisme, on n'a pas le choix. Il faut élever nos enfants, nos élèves, nos neveux, nos nièces, nos petites sœurs et frères différemment. Car dès le berceau et même avant, on se répète, mais le sexisme est absolument partout.
Partout.
De la couleur de la gigoteuse qu'on t'offre à la maternité, à la couleur des joggings pour le cours de sport, en passant par les remarques de beau-papa et belle-maman sur la longueur des cheveux de leur petit-fils, ou encore les manuels scolaires qui placent toujours papa au travail et maman à la maison. Aujourd'hui, on peine encore à montrer aux enfants d'autres modèles que la famille type manif pour tous, un papa, une maman, un frère, une sœur, du bleu,
rose.
Du rose, tout est bien rangé, on aime ça. Non, c'est pas vrai. Et encore, on n'a pas encore parlé des schémas amoureux qu'on leur présente, le prince charmant qui vient voler un baiser à la princesse endormie, ou la kidnapper pour lui faire plein de jolis petits enfants. Tout un imaginaire qui prépare les filles à se laisser faire et les garçons à arracher des bisous sans se préoccuper du consentement. Bref, si on en reste là, on n'a pas le cul sorti des ronces, mais heureusement, nos warriors tentent de corriger le tir avec leurs enfants. Elles encouragent leurs filles et leurs garçons à exprimer leur personnalité quand elle va à contre-courant de la norme. Elles les éduquent à débusquer le sexisme partout où il se cache. Elles leur apprennent que leur corps leur appartient. Bref, elles éduquent les hommes et les femmes de demain. Mais avant ça, Elsa, nous avons eu des retours suite à l'épisode sur la grossophobie.
Yes, alors dans notre dernier épisode, donc Marie nous avait témoigné du parcours médical difficile de sa fille. Elle nous a écrit, elle a dit « J'ai fait écouter la fin de l'émission à ma fille qui était très touchée de vous écouter. Après, elle m'a raconté qu'elle avait vécu à l'école maternelle des moments durs où les autres enfants lui parlaient mal à propos de son poids. Elle ne m'en avait jamais parlé. Elle a passé le reste de la soirée toute joyeuse à énumérer la liste de tout ce pourquoi c'est chouette d'être gros. Je pense que c'est important pour elle d'avoir été entendue et d'avoir été soutenue. »
Ouais,
oh, gros cœur, méga gros
cœur. Merci Marie pour ton retour. Et il est temps déjà de passer, de parler de notre première warrior. Et c'est Anaëlle. Et décidément, vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre dans le dernier épisode sur la grossophobie. Donc elle racontait comment elle a été maltraitée par le milieu médical pendant sa grossesse à cause de son poids. Donc Anaëlle, c'est une féministe. Elle est professeure des écoles et attention, elle a fait son mémoire sur les stéréotypes de genre et l'égalité filles-garçons en CM1. Voilà, donc on se dit, elle est méga armée pour éduquer ses enfants de façon non sexiste. Et elle nous raconte que ce n'est pas si simple.
Pas facile d'élever un enfant sans sexisme, même quand les parents sont des féministes convaincus. Alors, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans, et je suis actuellement enceinte d'un bébé surprise pour le mois de mai. Déjà, Les stéréotypes commencent bien avant la naissance, quand les gens autour de vous veulent absolument savoir le sexe de l'enfant pour savoir quel cadeau lui acheter, quelle couleur de vêtements prendre, etc. Ou encore, ça c'est mes préférés, quand on me dit « tu as une grossesse vraiment très pénible cette fois-ci, donc forcément c'est une fille parce qu'elles sont plus chieuses que les garçons ». Voilà, j'adore. Ensuite, il faut savoir qu'on était assez contents parce que pour mon petit garçon, déjà, sa couleur préférée, c'était le rose jusqu'à son entrée en grande section. Et on avait l'impression d'avoir quand même sélectionné des livres, des films, etc. qui parlent des filles et des garçons de la même manière. Et quand, par exemple, il n'y a pas beaucoup de filles dans une histoire, on n'hésite pas à le souligner. Mais à l'arrivée en grande section, ça s'est un peu corsé. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé au milieu d'une bande de copains qui l'ont persuadé déjà que les filles, c'était nul. Qu'il fallait pas jouer avec les filles, que le rose c'était pour les filles et le bleu pour les garçons bien sûr, et que les filles elles avaient pas le droit de jouer des jeux violents. Donc il a fallu qu'on en discute beaucoup avec lui. Alors aujourd'hui il est toujours pas ok pour continuer à mettre sa couleur préférée à l'extérieur. À la maison il sort de son bain, il met son petit peignoir princesse avec des diamants sur un diadème, il est magnifique. Mais sorti de la maison en fait il ose pas se confronter au regard social des copains à l'école. Néanmoins on est assez content parce que après l'avoir travaillé pendant plusieurs mois, il dit lui-même que les filles en fait elles peuvent jouer à tous les jeux. Même les jeux de militaire, ce qui n'est pas le cas de ses copains, qui empêchent les filles de jouer aux jeux qu'ils appellent des jeux de garçons. L'autre jour, il m'a repris parce que je disais que dans une prison, il y avait un directeur et des gardiens. Et là, il m'a dit « Mais non, maman, ça peut être une directrice ou des gardiennes ». Par rapport à la grossesse aussi, c'est assez drôle parce qu'il dit régulièrement des phrases comme « Il faudrait que papa prenne ton ventre un jour sur deux » parce que ça serait vraiment le partage. Et c'est pas juste que ce soit les femmes qui accouchent, les hommes aussi devraient avoir mal. Sinon, mon petit Robin se laisse aussi pousser les cheveux longs pour ressembler aux princesses de la Reine des Neiges, même s'il veut pas le dire devant ses copains. Et pour finir, il voudrait avoir une petite sœur pour que ça soit la parité à la maison.
Merci beaucoup, Anaëlle.
Génial.
Et bon courage pour la suite de ta grossesse. Oh là là. Et voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et j'avais carrément envie de revenir sur les stéréotypes de grossesse et les gens qui s'attendent à connaître le sexe du bébé en fonction de ton comportement.
Des effets que t'as.
Voilà, il y a énormément de croyances qui n'ont absolument rien de vérifié ni de scientifique. Et d'ailleurs, tiens Elsa, je te propose un petit quiz.
Vas-y.
Somme des idées reçues. Alors, si tu es enceinte et que tu n'as pas eu de nausée, fille ou garçon ?
Garçon, parce que j'imagine que la logique, c'est de dire que les filles, elles sont chiantes, donc elles te foutent la nausée, c'est ça ?
Ouais, si tu n'as pas eu de nausée, c'est un garçon. Il y a sûrement de ça,
Je crois que j'ai compris un peu la logique derrière.
Si le papa prend du poids ?
What ? vu que c'est négatif, je dirais fille, puisqu'en gros, tout ce qui est négatif, ça vient des filles, c'est ça ?
Non, c'est un garçon. Ce serait que l'homme serait plus
d'accord.
impliqué, parce que c'est un futur garçon. Donc, déjà, il se projette déjà sur cet enfant. Si ta libido augmente ?
C'est un garçon ?
Évidemment, ouais. Parce que
les hommes ont plus de libido. Ouais,
C'est super, c'est de limite dégueulasse,
Vraiment.
Vous faites votre premier pas de la journée avec le pied droit.
Pied droit, je dirais garçon, vu que pareil, c'est plus positif toujours la droite que la gauche. On dit se réveiller du pied gauche, c'est négatif, donc je dirais que c'est garçon.
Si votre pilosité a augmenté.
Mais c'est horrible. Garçon, c'est la testostérone qui ressort sur tes poils, c'est ça ?
Ouais, bravo Elsa.
Je suis super forte.
T'es super forte en stéréotype.
Prénatal.
Voilà. C'est ça, donc ça commence déjà. Avant la naissance, la différence de comportement. Et il y a même des études qui montrent que à la naissance aussi, les parents inconsciemment se comportent de façon différente. Avec une fille et un garçon. Donc c'est Gisèle Apter qui est chercheuse et psychiatre spécialiste de la périnatalité, donc tout ce qui a trait à la grossesse, la naissance et les premières semaines de vie d'un enfant. Donc elle a remarqué que les mères sourient plus à leur fille et leur manifestent plus de variété d'expressions pour exprimer les émotions. Alors que les garçons on les touche plus, on les porte plus, et ils sont plus stimulés notamment par les papas que les petites filles.
Ouais, voilà. Ouais, ils connectent plus avec les enfants garçons. Ouais. Et moi, j'avais entendu aussi que les pleurs de bébés, on réagissait pas pareil, qu'on laissait beaucoup plus les garçons pleurer en mode, bah, faut qu'ils s'endurcissent, machin, enfin, ouais. Hallucinant.
Voilà, ouais. Et un petit garçon qui pleure, on va dire, il est en colère, alors qu'une petite fille qui pleure,
elle fait un caprice,
ou elle a du chagrin. Oh. Voilà, elle a une variété
Elle a du vague à l'âme.
C'est ça. Et surtout, alors faut en plus pas oublier quand même que, notamment dans les naissances, il y a 1,7% des enfants qui naissent intersexes, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on peut pas les désigner selon ce que la société accepte comme fille ou comme garçon. Ouais. On parle là d'organes génitaux, hein. Donc 1,7%, c'est selon Amnesty International, et c'est autant que de personnes rousses qui naissent.
Donc
c'est quand même beaucoup de monde. Donc gardez ça à l'esprit. Et voilà, pour en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que fait le collectif Intersexes et Alliés, dont on a déjà parlé dans l'épisode, donc sur les victoires LGBTQI+. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi pour éviter un petit peu tous ces stéréotypes qui commencent super tôt? Alors on peut, en tant que parent, déjà se détacher un petit peu de cette attente de savoir si c'est une fille ou un garçon, si on y arrive, si on arrive à échapper à la pression, parce que c'est vraiment une pression énorme. Hein. Dès le troisième mois, on demande alors fille ou garçon, alors que c'est impossible de savoir. Ne pas demander à l'équipe médicale le sexe de son futur bébé. C'est très compliqué parce que souvent les médecins le disent gaffe, oublie, le mettre sur un dossier alors qu'on avait dit, donc c'est très compliqué, mais on peut demander à ne pas le savoir, c'est possible. Et aussi quand on est face à un couple qui attend un enfant, ne pas forcément leur poser comme première question, alors c'est une fille ou un garçon, mais s'inquiéter peut-être plus de la santé de la future mère ou de la santé du bébé ou d'autres choses. Est-ce que ça va, comment ça se passe, est-ce que tu te sens bien, enfin voilà, plutôt que de parler directement de ça comme si c'était la seule information qui comptait,
ouais.
Alors qu'en vrai les parents, tout ce qu'ils s'attendent aussi, c'est avoir un enfant en bonne santé. Voilà, un peu tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et Elsa, je te laisse présenter notre prochaine warrior.
Yes, alors notre prochaine warrior, c'est Cécile. Cécile, elle a 34 ans et deux filles, une de 11 mois et une de 2 ans. Et elle a une histoire très touchante à partager qui est liée au rapport au corps.
Le petit truc que j'utilise, c'est une astuce que m'a donnée ma collègue Claire, que je remercie. Et il s'agit de dire que, en fait, le corps, c'est personnel. Donc, il y a des parties du corps que tu ne peux pas montrer. Tu ne montres pas tes fesses aux gens parce que les fesses, c'est personnel. Et tu ne laisses pas les gens te toucher n'importe quelle partie de ton corps parce que ton corps, c'est personnel. Et je pense que le message est bien passé et que la chaîne de l'éducation est lancée puisque, donc, ma petite fille de 2 ans a donné une leçon à son parrain qui est également mon oncle. Donc, on était en vacances là, en février. Et ça faisait très longtemps qu'elle avait pas vu son parrain, elle était vraiment très contente et là, mais au moment de partir, on sait qu'on va pas le voir pendant plusieurs mois. Il sait qu'il va pas nous voir pendant plusieurs mois, donc il met ma fille dans la voiture et puis il lui fait un petit poc sur le nez en lui disant « à très bientôt toi ». Et du tac au tac, ma fille de 2 ans, qui zozote un peu en plus, lui dit « Mais enfin tonton, on touche pas le nez des gens comme ça, c'est personnel !» Alors mon oncle me regarde avec une drôle de tête et puis il me demande « Mais elle a dit quoi ?» Je dis « Bah oui, c'est personnel, tu touches pas son nez sans lui demander. » Donc voilà, donc je pense que la chaîne de l'éducation est lancée. Ma fille, je suis très fière d'elle, elle a bien intégré que le corps c'est personnel. Et en plus, cerise sur le gâteau. Elle transmet le message à son parrain de bientôt 50 ans. Donc bravo ma chérie, j'étais très fière d'elle, son parrain aussi. Et puis voilà quoi. Merci. Merci pour ce que vous faites, merci pour votre podcast et puis à bientôt.
Cécile.
Merci Cécile, franchement super quoi. C'est vrai que c'est une super technique pour parler consentement.
Bah oui.
Souvent on dit oh, le consentement c'est difficile avec les enfants et tout. En fait non, suffit de prendre des exemples de la vie quotidienne quoi, enfin de
c'est
qui
ça.
Leur parle.
Et le corps c'est personnel parce qu'en fait je pense que les enfants ils intègrent très tôt que leur corps appartient aux adultes en fait et qu'ils sont tellement dépendants des adultes en fait que c'est difficile pour eux de résister parce qu'ils savent qu'ils ont besoin des adultes pour leur donner à manger, pour subvenir à leurs besoins tout simplement. Et du coup, enfin, c'est vrai que moi, avant, je voyais beaucoup les gens dire « Allez, fais un bisou à machin, allez, va dans les bras de machin et tout. » Et genre, non, en fait, si l'enfant, il est pas à l'aise avec un adulte, faut pas le forcer, surtout pas à faire des bisous ou à en recevoir, en fait. Enfin, je veux dire, ça, c'est la base, en fait. C'est vraiment la base de la base qui fait que plus tard, on va avoir du mal à mettre les limites, même quand on devient adulte, quoi. Quand on est ado ou adulte, on a encore du mal à dire non, parce que depuis qu'on est bébé, on nous force en fait à faire des bisous à des gens. C'est, quand ils pensent, c'est quand même vraiment tordu comme truc. C'est super malsain. Et je ne sais pas pourquoi. C'est considéré comme de la politesse de base en fait. Alors à la limite, dire bonjour, oui. Apprendre aux enfants à dire bonjour, c'est une chose. Mais faire des bisous et faire des câlins, etc., à des gens à qui ils n'ont pas envie de faire des câlins ou des bisous, ça, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée du tout, quoi. Donc, je trouve ça très cool, effectivement, ce truc de le corps, c'est personnel, et apprenez ça à tous les enfants, parce que il y a du boulot là-dessus, quoi, vraiment. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne comprennent pas, en fait.
C'est ça, et que l'enfant décide, en fait, avec qui il a envie de faire des bisous, des câlins, ou des pocs sur le nez, peu importe ce que c'est, quoi. Mais il a la capacité de décider pour lui. Déjà très tôt, quoi.
Et ça me fait penser aussi à l'autre truc que je trouve très malsain, c'est le fait de projeter systématiquement une relation amoureuse quand des enfants, même bébés, s'entendent bien ou juste sont l'un à côté de l'autre. Oh, ils sont amoureux et tout ça. J'entends ça tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et c'est quand même vraiment... Enfin, ça montre à quel point on projette ça dès qu'ils ont 6 mois, hein, vraiment.
Ouais, et surtout uniquement des relations hétérosexuelles, quoi. On va pas dire ça de deux petites filles ou de deux petits garçons.
Mais jamais de l'amitié. Aussi. Ça n'existe pas. Donc, tu m'étonnes qu'après, ce soit compliqué, l'amitié homme-femme, tu vois. Et ensuite, elle a rajouté dans son mail, au passage, concernant les représentations des filles dans les dessins animés, je suis atterrée par ce que je vois dans les dessins animés pour tout petit. Elle dit qu'elle est très déçue par Mulan, d'ailleurs. Elle dit la chanson du début, c'est « Les garçons aiment les filles calmes et dociles. Nous devons servir l'empereur pour combattre les Huns, les hommes en se battant, les femmes en enfantant. »
Au secours. Après, enfin, je sais pas, dans cette chanson, il y a aussi un truc où Mulan, elle arrive, elle se lie d'amitié quand même avec des mecs qui sont pas non plus dans la virilité classique.
Oui.
Du coup, il y a un peu un décalage entre ce que leur dit le commandant et ce qu'ils sont, en fait.
Mulan est une femme,
et les autres mecs sont absolument pas capables d'être des soldats. Mais oui, effectivement, à la fin, Mulan tombe amoureux du commandant et tous les mecs arrivent à devenir forts et à combattre les Huns. Voilà. La morale de cette histoire, c'est quand même on valorise en fait vachement le comportement masculin, et aussi dans les contes, en fait, tout ce qui est princesse est beaucoup dévalorisé. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour les garçons d'assumer aimer les princesses, parce que on valorise les comportements masculins, courageux, d'aventurier et tout ça, mais tout ce qui est prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur, prendre soin des autres, est systématiquement vu comme un truc de princesse, c'est mièvre, alors qu'on peut tout à fait le valoriser. C'est tout aussi noble que d'aller combattre les dragons, quoi, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres.
C'est ça.
Allez, c'est le moment de vous présenter Laura. Elle a un petit garçon qui aime porter des robes. Elle nous raconte.
Je suis mère de 2 enfants, de 5 et 2 ans, garçon et fille. Le choix du roi, paraît-il, puisque c'est le rêve de tout le monde d'avoir garçon et fille, bien sûr. Comme ça, on peut à la fois avoir un footballeur et une ballerine à la maison. C'est merveilleux. Pour mon fils, on a réfléchi un peu à une éducation non sexiste à sa naissance, mais plutôt en se disant, on lui proposera de tout. Donc il a eu des pyjamas de toutes sortes, aussi bien avec des dinosaures que des fleurs, et un peu de tout comme jouet. Il s'avère qu'il a choisi un poupon comme doudou quand il avait 2 ans, et depuis, c'est toujours son doudou, le plus important de toutes ses peluches. Il a aussi eu une phase petit poney, Barbie, et puis à l'entrée à l'école, ça s'est un peu compliqué. Vers la 2e maternelle, il a commencé à avoir des remarques parce qu'il avait des élastiques dans les cheveux. Il avait un pull Rainbow Dash, qu'il aimait beaucoup, Rainbow Dash, le dessin animé My Little Pony, et des chaussures avec des élastiques roses. Et les baskets étaient bleu marine, des baskets vraiment toutes bêtes, et... Bon, des élastiques de différentes couleurs, dont du rose. Je sais pas bien si c'était juste des commentaires ou des moqueries, mais en tout cas, du jour au lendemain, il a plus voulu porter son pull et il a plus voulu porter ses chaussures. Ça, c'était du côté des enfants. Du côté des adultes, on a rencontré un problème, parce qu'il aurait bien aimé aller à l'école en robe. Une robe très banale, comme on en fait plein dans les rayons enfants, un peu comme un long t-shirt. On met un legging en dessous et puis voilà, on est habillé. J'en avais trouvé une avec des dinosaures, puisqu'il adore ça. Mais à l'école, ils étaient vraiment pas pour. On m'a dit en substance que ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si on accepte ça, alors après, imaginez ce qu'on va nous demander. Moi j'ai bien réfléchi, mais j'ai pas réussi à imaginer, j'avoue. Et puis la maîtresse m'a demandé, mais il a des modèles comme ça dans son entourage ? Sur le coup, j'ai rien trouvé à répondre tellement ça me semblait dingue. Je sais pas trop ce qu'elle sous-entendait. Peut-être qu'elle se demandait s'il était issu d'une longue lignée de drag queen. Je sais pas, ça m'a laissé vraiment pensive. J'ai donc expliqué à mon fils que non, à l'école ce serait pas possible. Parce que nous, à la maison, on dit que les robes, c'est pour tout le monde, mais il y a des gens qui pensent que c'est que pour les filles. Et à l'école, il y en a qui pensent comme ça. On a laissé ça un peu de côté, et puis, un an après, à peu près, il m'a demandé, encore une fois, s'il pouvait mettre une robe. Et cette fois-là, je me suis dit, ok, on va le faire, sans demander la permission, puisque c'est juste un vêtement, ça va pas contre le règlement scolaire, c'est juste un vêtement. J'ai bien expliqué à mon fils que peut-être il aurait des moqueries et des remarques. il a compris. Et depuis, c'est arrivé quelques fois qu'il aille à l'école en robe. Parfois, il met des élastiques dans ses cheveux, mais au final, ça reste vraiment rare. Je suis bibliothécaire jeunesse, et je travaille beaucoup sur la représentation des stéréotypes du genre, donc forcément, j'en parle aussi à la maison. On en discute avec mon mari, avec mon fils. Ma fille écoute, mais évidemment, elle a 2 ans et demi, donc elle participe pas encore vraiment au débat. Et même si globalement, mon fils est toujours d'accord avec moi, c'est un combat sans fin, car les interactions sociales et les représentations qu'il a dans ses apprentissages à l'école sont toujours empreintes de stéréotypes. Sa maîtresse leur fait parfois faire des bricolages différents, selon qu'ils soient filles ou garçons, par exemple. Donc parfois, il me dit « Tu sais, maman, je sais bien tout ça, qu'il n'y a pas de trucs que pour les filles et de trucs que pour les garçons. Mais les autres, ils ne savent pas. » Pour lui, c'est sans doute très fatigant d'aller à contre-courant, surtout à cet âge où on veut être dans le moule et copier les autres surtout. Donc à l'école, il se met un peu plus dans le moule. Et à la maison, il se laisse aller. Il passe parfois des week-ends en robe, il se déguise de plein de façons, aussi bien en cow-boy qu'en fée ou en cow-boy-fée. Il regarde Vaiana, il s'invente 1000 histoires dans lesquelles il mélange les dinosaures et les fées, et à l'école, il essaye d'avoir des baskets de garçon, je mets beaucoup de guillemets. Il veut s'intégrer au groupe qui joue au foot, et puis bah c'est très bien, car il sait qu'il a sa bulle à lui à la maison, où il peut se reposer et juste être comme il a envie.
Merci beaucoup Laura. Franchement, ton petit garçon, c'est génial en fait.
Mais c'est l'enfant du futur, quoi.
C'est exactement.
Je suis trop fan.
En fait, il prend ce qu'il aime là où ça. Enfin, peu importe d'où ça vient, il prend quoi, les cow-boys, les dinosaures, et puis les fées, les princesses, et on mélange tout ça. Mais c'est génial. Il a un imaginaire en fait sans limite.
Il est hyper courageux aussi, quand même.
Ouais. Aussi, ouais, d'avoir conscience que c'est pas accepté par tout le monde, et de quand même le faire, franchement, bravo, hein.
Bah, alors, l'école, par contre.
Ouais, c'est chaud.
C'est chaud.
C'est très, très chaud. Et franchement, ça, c'est vraiment une urgence, hein, de former les enseignantes et les enseignants, justement, à une éducation non sexiste, mais bon, on a vu.
Bah oui, on a vu ce que ça donne.
Ce que ça donne, voilà, avec la mise en place de l'ABC de l'égalité, voilà, tout de suite. Ah, vous allez apprendre à nos enfants à se masturber. Mais quoi? De quoi tu parles?
Oui, c'est incroyable, l'hystérie totale.
Voilà, dès qu'on essaye un petit peu de faire de l'éducation à la sexualité à l'école publique, en fait, il y a une énorme levée de bouclier, et c'est quand même grave. On est en 2021, s'il vous plaît.
Oui, sachant que, par exemple, pouvoir mettre une robe, c'est même pas une éducation à la sexualité, c'est juste
point.
Enfin...
Exactement. Enfin, quand je dis éducation à la sexualité, large, à l'égalité, et puis voilà, quoi, enfin, stop, quoi. Et voilà, et Laura, en plus, elle a un podcast qu'elle met en ligne régulièrement, qui s'appelle 3 minutes contre les stéréotypes de genre.
Ah, trop cool.
Et c'est adressé aux enfants. Donc voilà, c'est chouette.
Ah, mais c'est une super ressource, hein.
Ouais, faites-le écouter à vos enfants, ça peut être super intéressant. Et on a beaucoup de parents qui nous ont écrit pour apporter cette difficulté, en fait, du passage, en fait, des enfants du cocon familial vers la crèche ou l'école ou les milieux à l'extérieur. En fait, on a beau, avoir essayé une éducation la plus égalitaire possible, il y a un moment où il y a la société, et contre la société, tu peux pas, tu peux pas grand chose, tu peux rien faire contre ceux, en fait, qui n'ont pas, eux, déconstruit leurs préjugés sexistes. Et comme les enfants, ce sont des éponges, en fait, ils s'apprennent vachement des modèles. Alors, ça peut être les enseignants, ça peut être un oncle, une tante, un papa, enfin, peu importe, forcément, du coup, les parents ne sont pas les seuls à éduquer leurs enfants. Et à ce sujet, on a reçu un mail de Magali. Elle dit qu'elle en a pris conscience en écoutant des podcasts, donc elle en cite 2. Un épisode des couilles sur la table qui s'appelle « J'élève mon fils ». Et un autre un podcast à soi de Arte Radio qui est « Un autre homme est possible ». Donc elle nous écrit « Je me culpabilisais souvent en me disant que malgré ma conscientisation, l'éducation que je transmets à mon fils, il continue de s'éclipser aux toilettes au moment de débarrasser la table ou de se vautrer dans le canapé quand on a besoin de lui. Et qu'on fait encore peser sur les épaules des femmes l'éducation des garçons non stéréotypés. Bref. J'écoutais un podcast et l'idée était que nos garçons s'identifient bien souvent aux personnes du même genre que son entourage. Mmh. Et j'ai soufflé un grand coup. J'avais en fait parfois devant moi une mini reproduction de son père ou du mien ou de son oncle et je n'avais pas failli.
Oui,
voilà.
C'est ça.
En fait, Magali donc est séparée du père de son fils et du coup voilà quoi. Elle l'éduque d'une certaine manière et forcément le père a d'autres modèles d'éducation.
C'est-à-dire que quand il est chez son père au moment de faire la vaisselle, il se jette dans le canapé. Qui fait la vaisselle alors? Est-ce que cet homme a une petite copine? Parce que moi j'entends beaucoup d'histoires aussi de femmes qui sont avec des mecs qui ont déjà des enfants, mais c'est pas leurs enfants. Et c'est quand même elle qui font tous les soins aux enfants, en fait. T'imagines, c'est ta belle-fille, ton beau-fils, et c'est toi qui fais la maman, alors que c'est même pas ton fils, quoi.
C'est ça, youpi. Non mais voilà, enfin tout ça, voilà ce que je trouvais très important dans ce que nous dit Magali, c'est voilà, on n'aura pas des enfants parfaitement déconstruits malgré tous nos efforts, voilà. Vous faites du mieux que vous pouvez, et de toute façon, ce sera formidable.
Voilà, c'est ça.
Allez Elsa, tu nous présentes la prochaine warrior.
Voilà, c'est Jessica. Donc Jessica, elle a 43 ans, elle a deux filles de 6 ans et 2 ans et demi en garde alternée. Elle leur parle de sexisme, mais selon ses mots, en douceur, parce que elle veut préserver encore un peu leur innocence. Sens, ce qu'on comprend totalement. Et récemment, elle a eu un échange avec elle qui lui a fait prendre conscience qu'elle comprenait plein de choses qu'elle leur inculque.
Donc un soir, j'étais dans la cuisine en train de faire à manger et ma fille de 6 ans vient me demander, je ne sais plus trop quoi, de venir l'aider à faire je ne sais plus trop quoi. Et donc je lui explique gentiment que je suis en train de faire à manger, que là je n'ai pas le temps tout de suite, mais que je viendrai dès que j'aurai fini. Et elle me dit, bon maman, il est quand même temps que tu aies un amoureux. Alors je comprends pas tout de suite pourquoi elle me sort ça là tout maintenant. Donc je lui pose la question, elle me dit ben comme ça vous pourriez partager les tâches, il pourrait faire manger les courses et le ménage et toi tu pourrais avoir du temps pour nous et pour toi. Donc la première petite victoire, je me dis bon c'est que c'est chouette. Et elle va un peu plus loin dans sa réflexion et puis elle me dit bon je te dis d'un amoureux mais une amoureuse ce serait pareil pour moi ce serait pareil hein. Quoique une amoureuse, ce serait quand même stylé, hein. J'aurais deux belles-mères, une maman, un papa. Ah, ce serait vraiment chouette. Et là, je me dis, bon, deuxième petite victoire. Ça rentre, hein. Ça fonctionne. Même en y allant en douceur, ça fonctionne. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Et merci pour vos podcasts que je prends plaisir à écouter et qui font du bien.
Merci Jessica et merci à ta fille d'être aussi cool. Enfin, c'est trop bien parce que du coup, c'est la deuxième petite fille qui est pro partage des tâches dans les témoignages d'aujourd'hui. Donc ça fait vraiment plaisir et qui pense à sa maman et qui dit mais attends, même pour que t'aies du temps pour toi en fait.
Ouais.
Waouh, tu vois. Et après évidemment le fait qu'elle ait normalisé dans sa tête l'option du couple lesbien, ça c'est le pompon quoi, c'est trop cool. Je suis vraiment trop fan. Donc là il y a ça, encore une fois comme elle dit hein, ça montre que même si on n'est pas dans un truc de leur faire une conférence sur le sexisme ou je sais pas quoi, juste naturellement petit à petit leur en parler, effectivement ça rentre en fait et ils comprennent très bien. Les enfants ils sont très intelligents en fait.
Mais oui, c'est ça, on y va petit à petit et au final, les efforts finissent par payer, quoi. Enfin, moi, je me rappelle aussi de ma petite sœur qui, quand elle était petite, alors elle adorait les princesses et c'est vrai qu'on s'est toujours un peu demandé d'où ça lui venait parce que c'était pas forcément l'éducation qu'on avait, mais bon, voilà, elle kiffait les trucs de princesse, elle adorait se mettre en jupe et tout, bon, voilà. Et en fait, voilà, ce que tu fais quand tu es petit, l'imaginaire que tu as quand tu es petit est pas du tout représentatif de ce que tu vas devenir plus tard, en fait. C'est juste, voilà, tu t'expérimentes, tu te déguises, tu te crées des univers et voilà. Et aujourd'hui, ma petite sœur, elle a les cheveux verts, elle fait du roller derby et, et voilà, il n'y a pas de problème, quoi.
C'est
voilà.
Ça, trop cool.
Allez, on va entendre le témoignage de Mac. Alors, Yel est non-binaire, donc c'est pourquoi je vais la désigner par le pronom Yel. Donc, Yel a un petit garçon de 9 ans et se pose plein de questions sur son éducation.
Bonjour tout le monde. Alors, il tombe très bien votre épisode sur l'éducation parce que c'est justement un sujet que je ressasse beaucoup ces temps-ci, notamment avec le fait de déconstruire tout ce que j'ai appris, que ce soit dans mon éducation ou à l'école, etc. Et le fait de militer pas mal depuis plus de 2 ans maintenant, contre le patriarcat, évidemment. Et justement, dernièrement, j'en ai discuté avec une copine et je lui disais que quand mon fils est né, on voulait pas savoir son genre avec son papa, c'était la surprise. Mais je me souviens, quand on me l'a sorti et amené et que j'ai vu ses attributs physiques, je me souviens avoir été soulagée parce qu'en gros, je me disais « Ok, là, je vais pas avoir à m'inquiéter quand il sortira le soir, machin. » Et évidemment, depuis que je suis dans la remise en question de la société patriarcale, je me suis longuement interrogée sur d'où venait ce soulagement et pourquoi. Et en gros, j'ai compris que ça venait de ma mère, tout bonnement, parce que j'ai été élevée avec un grand frère, on n'a pas beaucoup de différences, mais dans notre éducation, je me souviens que ma mère, elle flippait total quand j'ai voulu commencer à sortir, genre à 16-17 ans, et elle me disait des trucs genre « Restez groupées, les filles, faites attention à vos verres, si l'une de vous veut aller pisser, vous l'accompagnez, vous en lâchez pas une des yeux ». Alors que je n'ai jamais entendu dire ça à mon frère, ni d'autres phrases du genre « sois respectueux, une femme qui dit non, c'est non, tu insistes pas ». Alors mon frère est pas du tout un gros mascu, macho, rien de tout ça, mais quand même ça m'a posé question. Et finalement, le soulagement que j'ai eu à la naissance de mon fils, eh ben là, il est en train de se transformer en angoisse qu'il puisse un jour agresser qui que ce soit. Moi, par exemple, j'ai compris très longtemps après que j'avais été agressée sexuellement par un petit ami très maladroit. Et donc, sans tomber dans le schéma de l'agresseur ou du forceur ou du gros mascu, je me dis qu'en fait, si j'éduque pas mon fils sur la question du consentement, il pourrait très bien finir par blesser quelqu'un. Et d'une manière générale, je le sensibilise à toutes les formes de discrimination, puisqu'elles sont systémiques, et qu'il va pas forcément s'en rendre compte parce qu'il est blanc et a priori hétéro, même si j'insiste un peu parfois quand on parle d'amour, je lui répète bien qu'il peut avoir un amoureux un jour, c'est ok. Mais bon, là, apparemment, il a une amoureuse. Après, il a 9 ans et il est autiste, alors ce qui est difficile, c'est de savoir comment il conçoit le monde autour de lui. Et ça fait longtemps que j'ai compris qu'une des astuces avec lui, c'est de planter des graines, c'est-à-dire pas se lancer dans des tirades ou des explications argumentées, bien construites, etc. Sinon, il sature. Mais par contre, ça va être de lâcher une info comme ça en passant. Ou ce que je fais aussi, c'est que je tapisse sa chambre de petites affiches et il les lit et je sais qu'il va mouliner. Et parfois, ça va popper dans la conversation, il va m'en parler pour en savoir plus. Par exemple, je lui ai mis les dépliants antisexistes de maman Rodarde qui expliquent que les garçons peuvent mettre du vernis ou pleurer et les filles peuvent être bonnes en maths ou aimer le foot, etc. avec des photos de personnalités connues. Et sinon, j'aime beaucoup le travail d'Élise Gravel aussi. Là, est plus complet sur les différences, les émotions, le consentement, même l'écologie, en fait, tout un tas de sujets. Et je trouve que c'est des ressources qui s'adressent aux enfants et c'est un super appui pour lancer des sujets qu'on voudrait aborder avec eux. Mais on sait jamais à quel moment parler de choses un peu sérieuses. Et pour conclure, je raconterai une petite anecdote de mon fils parce que bon, il mouline de son côté et parfois il me sort des phrases sans contexte du tout, vraiment. Et l'autre jour, il m'a dit « Tu sais que les femmes avaient le droit de rien faire avant ?» Et j'ai rigolé un peu, j'ai dit « Ah bon ? Comment ça ?» Et il m'a dit « Oui, avant, elles devaient demander la permission pour travailler, par exemple. » Et donc là, j'ai hoché la tête et je dis « Oui, c'est vrai. » Et du coup, il m'a dit « Eh ben là, ça va mieux, du coup. » Et j'ai pas pu m'empêcher de rire, évidemment. J'ai dit, eh bah écoute, on est sur la bonne voie, c'est sûr, mais il y a encore un peu de boulot. Merci.
Et merci Mac pour ton témoignage. C'est vraiment, ouais, tu touches vraiment des points très 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 importants. Alors, je note ta référence, la maman de Rodard. C'est vrai que je connaissais pas. Je suis allée regarder. C'est vrai que c'était super. C'est des petites affiches. Les garçons peuvent-ils et les filles peuvent-elles avec des exemples. Par exemple, on voit Barack Obama pleurer ou Madonna avec des poils sous les bras. Enfin, okay. C'est vraiment pas mal à afficher ou même pour les enseignants, les enseignantes à afficher dans leur classe aussi. Je pense que ça peut être.
Oui, la communication visuelle, ça marche très bien.
Voilà. Et moi, ce qui me marque vraiment beaucoup, alors déjà, le fait qu'elle arrive à discuter de tout ça avec son fils autiste, voilà, donc c'est qu'on peut en discuter avec tous les enfants, avec leurs mots, évidemment, et en fonction de leur âge et de ce qu'ils comprennent, voilà, on s'adapte. Hein, je pense que les parents sont les mieux placés quand même pour savoir un petit peu leurs enfants où ils en sont. Mais il y a quelque chose de super intéressant et de effectivement difficile, comme elle le dit, quoi, cette question de qui fait un peu écho à ce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux, la question que toutes les féministes ont posée à un moment, comment faire pour que les hommes cessent de violer. Et en fait, en miroir, il y a un peu la question, comment faire pour que nos garçons ne deviennent pas des agresseurs et des violeurs, en fait. Et c'est vrai que pour les parents, bah, c'est pas une question agréable à traiter et difficile, enfin, qui est très difficile. Et pour ça, il y a une ressource qui est vraiment pas mal, qui a beaucoup été citée dans tous les messages qu'on a reçus. C'est le livre de Aurélia Blanc, « Tu seras un homme féministe, mon fils », aux éditions Marabout. Voilà, il coûte 15,90€. Et il y a beaucoup, en fait, d'astuces et de pistes pour, justement, élever les garçons d'une façon différente. Et il y a tout un chapitre là-dessus sur l'éducation à la sexualité et les violences sexuelles. Donc, il y a quelques pistes dont elle parle qu'on peut partager maintenant. ans. Donc déjà, ce qu'elles disent, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Elsa, c'est arrêter de prêter une vie amoureuse aux enfants, et notamment pour que les garçons arrêtent de croire que une relation avec une fille, c'est forcément une relation de séduction, une relation amoureuse. Parler très tôt de consentement aussi, comme Cécile l'a fait tout à l'heure avec sa fille. Alors elle donne un truc que je trouve assez rigolo, avec un exemple très simple. On peut dire à son enfant, lui dire un exemple, tu es en train de dormir et ta petite sœur vient et te coupe les cheveux. Est-ce que tu es d'accord?
Très bon exemple.
Voilà, ça peut être pas mal pour aborder le sujet de Et ce qu'elles disent aussi, c'est donner une éducation sexuelle aux enfants, donc aussi en tant que parents, parce qu'il faut savoir qu'entre 11 et 13 ans, 82% des enfants ont été exposés à des images pornographiques.
Au secours.
Voilà, donc ça sert à rien de faire genre que ça n'existe pas. De toute façon, ils vont voir du porno. Donc voilà. Donc on peut profiter. Le propos, c'est de profiter de toutes les représentations sexualisées dans les émissions qu'on voit à la télé, les films, les clips. Voilà, de profiter de tous ces moments-là pour commencer à en discuter, discuter des corps qui sont présentés. Pourquoi, tiens, pourquoi les femmes sont toujours à poil? Tiens, pourquoi les mecs sont forcément bien musclés? Commencer à réfléchir à tout ça, les interroger. On peut aussi décortiquer les propos tenus parfois. Pourquoi dire ah, l'enculé, c'est problématique? Pourquoi, voilà, repérer avec eux dans une émission comme quand une femme est traitée comme un objet, et ça arrive quand même assez souvent. Voilà, donc bref, aiguiser leur esprit critique pour débusquer tous ces problèmes là et aussi débusquer la culture du viol dont on a longuement parlé dans plein d'épisodes, un peu dans toutes les représentations qui peuvent voir. Et aussi expliquer ce que c'est concrètement un viol et une agression sexuelle. Voilà, leur dire ce que c'est.
Aussi pour les protéger de la pédophilie, et si jamais ça leur arrive,
voilà,
qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent l'identifier et en parler, quoi.
Voilà,
c'est hyper important.
Donc ce qu'elle dit, Aurélia Blanc, c'est vraiment de pas attendre l'adolescence en fait pour parler de tous ces thèmes-là, parce qu'en fait voilà, on a 11-13 ans, ils ont déjà vu du porno, donc voilà, c'est avant qu'il faut déjà les sensibiliser à tout ça. Et aussi, avant toute chose, la première chose à faire, c'est de défaire nos propres représentations à nous. Parce que, bah voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants se construisent par rapport à des modèles. Donc voilà, si nous, déjà, on n'est pas au clair sur ces questions-là, forcément, ce qu'on transmet à notre enfant, bah voilà. Ça peut être problématique. Voilà.
Et sur la question du porno, en fait, moi, j'avais écouté un truc super intéressant. C'était un podcast, une émission de France Culture qui s'appelle LSD, la série documentaire, qui était une série de Ovidie. Et
oui,
en fait,
super.
Un journal de bord d'une année d'expérimentation en Charente auprès des enfants d'Internet et de la culture porn, mêlant témoignages d'ados et paroles d'adultes dépassés. Donc, sur ce sujet-là, le sujet du porno et de la sexualité, comment on en parle à des ados ou pré-ados, hyper intéressant.
Ouais, et du déni aussi de l'éducation nationale sur ces questions-là, et de limite la croisade que doit mener Ovidie.
C'est ça.
Appuyée par certains chefs d'établissement pour convaincre les rectorats que oui, en fait, c'est important de le faire, quoi.
Oui, elle subit aussi du slut-shaming parce que les parents disent « Mais attendez, c'est une ancienne actrice porno, comment ça ?» Et elle voit en fait avant tout le malaise des parents par rapport à leur propre sexualité, avant même d'arriver au malaise potentiel des enfants et des ados, quoi. Tu dis, oulalalala, il y a vraiment, vraiment, vraiment du boulot, quoi.
Et pour terminer sur cette question-là, on a reçu vraiment tellement de messages, vous avez toutes des astuces à partager. Il y a Margot qui nous dit aussi, donc elle a un fils de 3 ans, donc pour commencer à parler toutes ces questions-là, tout simplement ce qu'elle a commencé à faire, c'est nommer les organes sexuels par leur nom, en fait. Ne pas dire zizi, zézette, minou, enfin voilà, vraiment les nommer par leur vrai nom, donc clitoris, vagin, pénis, testicule, mais aussi anus, voilà. Et voilà, elle précise que quand le petit note que le poupon, il a pas de sexe, elle le dit tout simplement, que les fabricants l'ont oublié. Et c'est vrai que ça, souvent, trouver des poupées, des poupons sexués, c'est pas toujours facile. Souvent, on le voit.
Oui, c'est vrai que ça montre bien effectivement qu'il y a un tabou par rapport à ça.
Il y a un tabou par rapport à ça. Si vous regardez la plupart des poupées en plastique entre les jambes, en fait, il y a rien. Voilà, ce qui est quand même un peu bizarre parce que les enfants ont quand même quelque chose entre les jambes, donc ils ont besoin aussi de
c'est clair.
De voir que c'est pas que c'est normal en fait.
C'est clair, carrément.
Allez, tu nous présentes la dernière warrior.
Yes, donc la dernière warrior, c'est Blandine qui a 42 ans, 2 enfants, donc Suzy de 13 ans et Victor de 9 ans. Et en fait, elle leur parle du respect des valeurs féministes, donc surtout pour son garçon, elle nous explique.
Bonjour, yes, je m'appelle Blandine, j'ai 42 ans et deux enfants, Suzy de 13 ans et demi et Victor de 9 ans. Deux enfants que j'élève dans le respect et l'enseignement de certaines valeurs féministes, surtout par rapport à Victor, que je veux être au courant aussi de ces combats-là, donc je fais pas de distinction entre les deux. Et ça m'a valu des situations un peu cocasses, par exemple, une fois, je fais faire la vaisselle à mes enfants et à tour de rôle, et Suzy se plaignait parce que à un moment, je demande à son frère d'arrêter pour... Et elle trouvait ça pas juste, et elle disait, bah, voilà, t'es féministe, mais alors, ton fils, il fait pas la vaisselle comme moi, etc. Donc ça m'a permis de lui inculquer les valeurs de l'équité. Quand on a 9 ans, on peut pas faire les mêmes choses que quand on en a 13. Et aussi, elle transmet certaines infos à son frère parce que Victor est un petit garçon qui aime bien mettre du vernis à ongles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pendant les vacances. Et Suzy lui a donné une punchline à sortir à ses copains. Et donc un jour, normalement, on ne met pas le vernis à ongles à l'école pour éviter justement, malheureusement, les commentaires. Et un jour, ils étaient chez leur père et le papa n'a pas enlevé le vernis avant la rentrée. Et Victor est allé en classe avec son vernis. Et ses copains lui ont dit « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes copains ?»
Ils m'ont dit que j'étais une fille parce que je portais du vernis.
Et t'as répondu quoi ?
Que le vernis, c'était pas pour les filles, c'était pour les ongles.
Voilà. Et ça, moi, j'adore. Et je me suis dit que peut-être vous alliez sourire en entendant ça.
Merci.
Non, mais on sourit, puis moi, je suis morte de rire. Mais c'est génial, j'adore, c'est trop bien. Bravo, Victor.
Ah, mais la meilleure punchline. Bah, du coup, apparemment, c'est sa sœur qui lui a donné, mais c'est trop une bonne idée. Et non, il est. Enfin, ça me fait vraiment de la peine hein, pour tous ces petits garçons qui veulent porter des robes ou mettre du vernis et à qui on va vraiment inculquer beaucoup de violence en fait, hein, pour pour les dissuader, leur faire penser que c'est mal et que c'est la honte. Enfin, faut vraiment se calmer. On est en 2021 en fait. Là, c'est plus possible quoi. Je veux dire, quand on voit les ados justement qui sont hyper dans ce truc-là de s'exprimer, peu importe leur identité de genre, etc. Je me dis, mais si les jeunes de 4-5 ans ils ont ce genre de désir et qu'on les laisse pas faire, enfin c'est pas possible quoi. C'est hallucinant. Encore une fois, les enseignants là, il y a vraiment du travail à faire d'éducation quoi.
Ouais, et c'est surtout qu'en ce moment on pousse vachement les filles à faire du sport. Enfin, on voit de plus en plus de jeunes filles qui font du skate, qui vont jouer au foot, ce genre de choses. On les pousse, enfin il y a pas mal de programmes pour les pousser à aller vers les carrières scientifiques. Ouais. Enfin, il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus et c'est vraiment super. Mais en même temps, voilà, c'est ça, faut aussi valoriser et encourager les garçons qui veulent faire et aller vers des choses qui sont plutôt réservées aux filles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tout ce qui est considéré comme masculin est valorisé, alors que tout ce qui est considéré comme féminin, voilà forcément.
Avoir
ça va
des émotions, s'occuper des autres, mettre des robes, des vernis, prendre soin de soi de manière générale, en fait, c'est quand même dingue que ça soit dévalorisé. Et ça me fait penser aussi, quelqu'un m'a fait remarquer récemment qu'il y a de plus en plus de marques dans la mode qui se disent gender fluid, donc sans genre.
Ouais.
Mais en fait, ces marques-là, elles mettent par exemple des ensembles de jogging ou des trucs comme ça, mais elles mettent pas des robes.
Ouais, c'est vrai.
Ni des jupes. Alors que pourtant, on voit qu'il y a certains artistes, même dans le rap, hein, Kanye West, Travis Scott, ils mettent des jupes. Dans les années 80, il y avait plein, même dans les années 70, plein d'artistes qui mettaient des robes ou des trucs comme ça. Et maintenant, non, en fait, quand on dit sans genre, en fait, ça veut dire masculin.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Clairement.
Mais surtout que ça a l'air d'être un truc super marketing. En plus, gender fluid. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'avoir des fringues estampillées de gender fluid. Pour mettre un jean de mec, ou un t-shirt de mec, en fait. Enfin, c'est complètement dingue, en fait. Ils ont segmenté le marché en trucs féminin, masculin, ça fait deux fois plus. Et tiens, on va en créer un troisième. Non mais il faut arrêter là au bout d'un moment quoi.
Ouais. Non, après je pense qu'il y a certaines marques qui sont sincères dans cette démarche là, mais c'est vrai que on me l'a fait remarquer, je me suis dit ouais, je pense qu'ils y ont même pas pensé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément une robe pour un mec, tu te dis oulala, les problèmes, alors là il va se faire insulter dans la rue toute la journée, etc. Enfin tu vois, tu te dis pas en fait quand on pense gender fluid, on pense presque il faut que ce soit safe quoi. Il faut que ce soit un truc qui te fasse sentir à l'aise, et à l'aise ça veut dire tu vas pas te faire harceler, donc cache tes formes, cache-toi, enfin, tu vois, et pas célèbre ton corps et machin, mets-toi en avant, quoi. Donc voilà, après, l'autre truc qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle lui a inculqué l'équité,
parce que sa fille lui disait que c'était pas juste que son frère fasse pas la vaisselle jusqu'au bout, etc. Et effectivement, l'équité, c'est quelque chose aussi dont on peut parler pour le sujet du racisme, pour les sujets liés au handicap, à tout ce que vous voulez. C'est le fait, en fait, de prendre en compte les différences des gens, que ce soit des discriminations qu'ils puissent subir, des handicaps ou autres, et ne pas dire non, c'est l'égalité, on donne exactement la même chose à tout le monde, puisqu'en fait on part pas tous avec le même bagage à la base. Donc typiquement, on vient pas tous des mêmes milieux sociaux, on n'a pas tous le même capital culturel, on n'a pas tous la même santé, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, dire égalité, on donne la même chose à tout le monde, bah en fait ça n'a pas de sens, parce que ça va que avantager ceux qui ont déjà des privilèges. Donc ça c'est un concept intéressant aussi, je trouve. Et du coup, on va passer au self-care.
Et toi, t'as lu un bouquin, c'est ça, Elsa ?
Ouais, un bouquin qui s'appelle Éduquer sans préjugés. Donc, on vous mettra aussi dans la liste des références de l'épisode. Et il y a deux choses alors que j'ai trouvé intéressantes, dont une dont on a déjà parlé. Donc, la première, c'est la surcharge maternelle, c'est-à-dire que après un accouchement, on a tendance à ne s'adresser qu'à la mère. On va dire, est-ce que t'as trouvé un mode de garde ? Tu l'habilles en quelle taille ? Tu le laisses pleurer ? Tu le nourris pas au sein ? Tu vas l'allaiter longtemps ? Il t'aide un peu ton mec ? Etc. Il t'aide un peu. Il fait du babysitting quand il a rien d'autre à faire, quand il a fini ses trucs importants de papa. Et donc, encore une fois, voilà, on s'adresse qu'aux mères, on les abreuve d'injonctions contradictoires et de beaucoup, beaucoup d'avis non sollicités.
Mais ils font comment, du coup, quand c'est un couple gay qui vient d'adopter un enfant, ils ne leur parlent pas de l'enfant?
Oui, bah là, déjà, c'est une situation particulière. Mais oui, enfin...
Bug au cerveau, genre.
C'est ça. Ils ont donné une précision que je trouve très intéressante, c'est que pour les parents racisés, s'ajoutent des soupçons d'incompétence, voire de violence éducative. Ah ouais, ouais, ouais. Quand c'est des parents noirs ou arabes, on va dire, ah ouais, ils risquent de taper l'enfant ou d'être violent avec, ce genre de choses. Donc ouais, non, ce livre, il est hyper intéressant. Et ils disent, un premier exercice, si vous avez une jeune maman dans votre entourage, impliquez le papa dans vos phrases. Lorsqu'il s'agit des soins, des sujets qui sont liés au bébé, ne parlez pas que à la mère. Donc voilà, premier point. Et ensuite, pour l'histoire de la sexualité, parler de la sexualité aux enfants. Alors, il y a un témoignage dans le livre qui est intéressant. Donc c'est Joyce qui a 29 ans qui dit « Je prenais ma douche et ma fille était dans la salle de bain avec moi, comme tous les matins. Cette fois, elle m'a regardée avec attention, puis elle a indiqué mon entrejambe en me demandant « c'est quoi ça ?» J'ai paniqué, je ne savais pas quoi lui répondre, je ne voulais pas utiliser des mots infantilisants et en même temps je n'arrivais pas à dire « la vulve, ma vulve ». Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là je vous lis un extrait du livre que j'ai trouvé super intéressant. Alors ils disent « parfois, utiliser des mots comme vulve ou testicule avec les enfants crée une gêne, on se dit qu'on les oblige à grandir trop rapidement, trop brusquement. C'est pour ça qu'on préfère recourir à des synonymes ou ne rien dire du tout. Mais est-ce vraiment la bonne solution ? Que révèle le fait d'employer des synonymes ? Que le mot est sale, indécent, imprononçable. Et si, au contraire, bien nommer les parties du corps pouvait contribuer à les normaliser en leur ôtant tout voile de honte ou d'indécence. Donc si nos enfants ont des bras et des jambes, ils ont aussi des pénis et des vulves. Ce n'est pas les exposer à la sexualité que de leur apprendre comment décrire leur sexe. Ça leur permet tout simplement de se l'approprier. Justement parce que nous voulons préserver leur part d'innocence, pourquoi ne pas commencer par nommer leur anatomie sans dramatiser, sans en faire toute une histoire. Nos enfants ont des corps, ils ont des sexes, parlons-en avec eux, s'approprier son corps, le connaître, l'apprécier et le défendre, n'est-ce pas là un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait faire à nos enfants ? Et en fait, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'en fait, ne pas en parler, ça a des conséquences. Donc en 2018, un sondage réalisé par ACT Intimate Survey sur plus de 1000 femmes révélait que 62% des Françaises ne savaient pas ce qu'est la vulve,
ni
où elle se trouve exactement.
Ouais. Wow.
Certaines filles en viennent même à être complexées. Elles ne savent pas si la taille de leurs lèvres est juste, si leur couleur est normale, sans compter les pertes blanches, les odeurs, le développement de la pilosité. Tant de questions résumées en une seule. Suis-je normale ? Toujours selon le même sondage, un peu plus de 50% des femmes s'estiment insatisfaites de leur vulve. Non mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Et du coup, un pourcentage qui paraît cohérent avec l'augmentation impressionnante des nymphoplasties, à savoir la réduction des petites lèvres par opération chirurgicale. En 2016, près de 4000 Françaises ont eu recours à ce type d'intervention. On coupe, on lisse, on décolore.
Ça, c'est complètement fou, en fait, d'être insatisfaite de quelque chose qui n'est pas représenté en général, enfin à part dans le porno, quoi, mais c'est complètement fou, quoi.
Ouais, non, mais voilà, c'est très violent, hein, la façon, encore une fois, dont on nous incite à nous détester et à penser qu'il y a toujours quelque chose qui va pas avec notre corps. Donc, clairement, enfin, on en a parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment important N'hésitez pas à parler de tout ça à vos enfants. Et pareil, on a plein de ressources donc à vous proposer. On a lancé un appel donc sur Twitter et sur Instagram aujourd'hui. On les mettra tous dans le lien. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc déjà, il y a le collectif PAF, collectif militant pour une parentalité féministe. On adore. Donc, ils ont mis un article en ligne avec des recommandations qu'ils ont fait suite à une soirée débat sur ce sujet. Ensuite, on a les albums Ulysse et Alice et La pire des princesses, recommandés par Gab Richard.
J'adore ce titre, La pire des princesses.
La pire des princesses, c'est ça. Ensuite, il y a des affiches à imprimer de Élise Gravel, le travail de la maison d'édition Talent Haut. Après, on a le petit traité d'éducation féministe de Lucille Bélan. Voilà, on a « Filles, garçons, même éducation » d'Elisa Rigoulet. L'album de Sophie Gourion « Les filles peuvent le faire aussi ». Ça, c'est cool aussi. Un livre de Chimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle « Lettre à Ijoa Wele ». Voilà, on a tout un tas de trucs. Après, on nous a proposé aussi, plus pour les ados, « Sexe éducation ».
Évidemment.
la BD d'Ovidie sur la sexualité, la
carrément.
Série Scam. Et le dessin animé Shira. Enfin, Shira, S-H-E-R-A.
Cool.
Donc voilà, on vous mettra tout de toute façon en description de l'épisode.
Ouais, et moi j'ai une petite référence en plus, un projet de livre qui s'appelle Les Puissantes et qui est adressé aux enfants à partir de 6 ans. Et le thème donc ce sont les femmes noires inspirantes. Donc il y aura des portraits de Aya Nakamura, Surya Bonaly, Christiane Taubira, enfin ça a l'air trop trop chouette. Mm-hmm. Et donc si vous voulez le recevoir, vous pouvez participer au crowdfunding sur Ulule. Et attention, hein, c'est les derniers jours parce que ça finit le 10 avril. Bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais mm-hmm. bon là, c'est l'heure du goûter. Hein, enfin surtout on va libérer l'équipe de Radio Grenouille à Marseille qui nous accueille pour l'enregistrement aujourd'hui. Et merci.
Merci beaucoup.
On remercie aussi nos six warriors, Max, Cécile, Laura, Blandine, Jessica et Anaëlle. Bravo à vous, vous êtes des parents formidables.
Bravo.
Yes, c'est un podcast made in Marseille, produit par Popcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires, des messages, des vocaux, partout où vous voulez sur les réseaux, @yespodcast. Vous y trouverez aussi nos prochains appels à témoignages. Vous pouvez toujours aussi nous écrire par mail à warriors@yespodcast.fr. Yes, avec
3 S.
Voilà. On se retrouve vite. Et d'ici là, ne lâche rien et n'oublie pas, tu fais du mieux que tu peux, tu t'en sors super bien, tu nous impressionnes et tu nous inspires. Bref, meuf, t'es une warrior.
Wouhou!